Studio Tamani, voici les informations en français.
Ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de Studio Tamani, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce journal dont voici les titres. À Djéné et Bankass, des déplacés demandent de l'assistance humanitaire. Cet appel intervient alors que les organisations humanitaires sont confrontées à une réduction de financement à travers le monde. Le projet Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre vole au secours des enfants malnutris à Bankass. Il a mis en place des centres de traitement dans le cercle. L'initiative est saluée par la population locale. La chronique Zoom sur s'intéresse au comportement des accompagnateurs de malades dans les structures de santé. À la présentation de cette édition, Juliette Koulibaly Serundao assure la technique. Alors que le déplacement des populations fuyant l'insécurité continue dans plusieurs localités, certains de ces déplacés demandent de l'assistance humanitaire. C'est le cas des déplacés des localités au carrefour de Djéné, à Soufara et Bankass. Face aux difficultés de prise en charge, ces ménages appellent à l'aide. Hawa Berthe nous donne plus de détails.
La ville de Djéné a accueilli récemment de nouvelles vagues de déplacés en provenance majoritairement de Timissa, dans la région de Ces ménages n'ont pas encore été assistés. Certains déplacés sont dans des familles d'accueil, faute de sites pour eux. Selon Sedou Maïga du service local du développement social, des mesures sont en cours pour les assister.
Même tout récemment, avec les événements de Timissa, on vient de faire tout de suite l'enrôlement biométrique de ces déplacés qui sont arrivés au niveau de Djéné, de Madiama, de Soufara surtout, où il y a beaucoup de déplacés qui sont arrivés là-bas. Pour le moment, les derniers déplacés n'ont pas été assistés d'abord, mais le processus est en cours.
À Bankass, de nouveaux déplacés n'ont pas été enregistrés depuis 3 mois. Toutefois, Alou Guindo, président des déplacés dans la ville, demande de l'aide pour la dernière vague de déplacés en détresse. Depuis leur arrivée, selon lui.
Depuis leur arrivée, il y a 3 mois de cela, ils ont reçu de vivre une seule fois. Pour nous, les anciens, la priorité devra être donnée aux nouveaux déplacés. Nous voulons que le service social assiste les nouveaux arrivants, car ils n'ont rien, ils n'ont pas de champs à cultiver.
Ce cri de détresse des déplacés survient alors que l'ONU a annoncé le 16 juin une réduction majeure de l'aide humanitaire en 2025, suite aux fortes coupes des principaux donateurs dont les États-Unis.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Je vous le disais au sommaire, à Bankass, le projet Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre est une initiative très saluée par la population locale. En plus de la distribution de la nourriture aux déplacés, le projet a mis en place des centres de traitement de la malnutrition dans le cercle. De Bankass, nous retrouvons notre correspondant Adama Dele Togo.
La distribution de vivres et des compléments nutritionnels pour les enfants malnutris a sauvé des vies. Ce témoignage est de Soumaïla Guindo, déplacé et père d'un enfant malnutri sur le site des déplacés à Bankass.
Il se promène dans tous les quartiers pour apprendre aux femmes comment préparer la bouillie enrichie pour les enfants malnutris. Aujourd'hui, Dieu merci, il a porté ses fruits. Il prodigue aussi des soins aux malnutris. Aujourd'hui, on peut dire que ça a été une très bonne chose.
Pour docteur Rosina Lynn Sylvie Ouattara, chef du projet Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, FRAOC, le traitement de la nutrition vise à restaurer l'état nutritionnel des enfants par l'administration d'aliments thérapeutiques riches en nutriments.
La plupart des enfants qui vivent sur les sites PDI sont des enfants malnutris sévères. Et actuellement, les aliments thérapeutiques se font rares. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes obligés d'utiliser, de valoriser nos produits locaux pour essayer de récupérer ces enfants-là.
De l'avis des bénéficiaires, ce projet est un véritable espoir pour les familles déplacées. De Bankass, Adama Dele Togo pour Studio Tamani.
Le gouvernement du Mali a annoncé le 25 juin dernier le début du paiement des cotonculteurs au titre de la campagne agricole 2024-2025. Et à Koutiala, plusieurs cotonculteurs ont déjà reçu leur recette du coton graine de la campagne agricole 2024-2025, selon les responsables de la Fédération des cotonculteurs de la région. Toutefois, il demande aux autorités de tout faire pour payer rapidement ceux qui n'ont pas perçu leur dû. C'est là afin que ces derniers assurent la campagne en cours. Draman Kono Goïta est le président de la Fédération des cotonculteurs de la région de Koutiala. Il est au micro de notre correspondant David Koulibaly.
Nous avons été à Bamako le mois dernier pour rencontrer les autorités sur la question de la recette du coton grain. À partir du 18 juin, on était à Bamako, on nous a fait savoir que 17 milliards avaient été débloqués pour payer certains producteurs dans ces deux jours. Beaucoup ont reçu leur argent. Tout ce qui nous soucie aujourd'hui, c'est l'argent et les intrants agricoles. Mais je peux rassurer que d'ici les 10 juillet prochains, tous les producteurs seront payés. C'est ce que dit le gouvernement. Cette année, certains paysans ont vite reçu leur argent. Nous, nous avons reçu notre part avant le mois de janvier. Aujourd'hui, on est rassuré que tout le monde garde espoir pour cela.
Autre sujet de ce journal, la chaîne de télévision privée Djoliba TV News a repris hier ses programmes. Cela après avoir été suspendu pendant 6 mois par la haute autorité de la communication HAC, l'organe de régulation des médias au Mali. Une reprise saluée par le personnel de Djoliba TV News qui se disent plus enthousiaste et déterminé à servir les populations maliennes. Moussa Malé Sissoko y a fait un tour.
Des techniciens et animateurs préparent des émissions, des reporters déjà partis sur le terrain, des échanges entre responsables éditoriaux et journalistes. Tout cela dans une atmosphère bon enfant. À Djoliba TV News, ce lundi matin, le travail a repris avec la même joie et le même engagement, comme en témoignent ces journalistes.
Quand on choisit de faire ce métier, il faut accepter aussi les aléas qui vont avec. Aujourd'hui, je suis toute contente de reprendre mon boulot et de retrouver les téléspectateurs également.
Il est vrai, nous avons été en tout cas durement frappés. Si on n'a pas l'impression que voilà une structure qui a été fermée 6 mois et qui reprend avec une telle allure.
Djoliba TV News revient après 6 mois de suspension, mais pas avec les mêmes programmes. La grille du média ayant été réajustée. Kwasi Unza, directeur délégué du groupe Djoliba.
Nous avons la forte conviction que nous allons faire mieux qu'hier, éviter aussi ces désagréments pour que nos téléspectateurs puissent être contents. On a fait une autorégulation à notre niveau nous-mêmes, tenant en compte que nous sommes dans un contexte aujourd'hui très sensible. L'émission en question qui a été l'objet de sanctions, Rendez-vous des idées, n'est plus là.
La chaîne de télévision Djoliba TV News a été suspendue suite à une saisine du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso adressée aux autorités maliennes en novembre 2024. C'était suite à l'émission Le Rendez-vous des idées. Au cours de cette émission, un invité a remis en cause la thèse officielle d'une tentative de coup d'État au Burkina Faso.
Cap sur Sikasso où le respect de l'âge légal de mariage des filles fixé à 16 ans était au cœur d'un forum communautaire le samedi 28 juin 2025. L'événement a réuni plusieurs acteurs communautaires dont les leaders d'opinion des jeunes et des femmes organisés par Trigide et l'ONG Grat. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet JUPAX. Son objectif est de renforcer la conscience collective autour de la protection des droits des filles. De Sikasso, nous nous rendons à Sikasso où plus d'une cinquantaine d'hommes de médias et d'étudiants ont participé samedi 28 juin 2025 à une rencontre sur la désinformation. La session avait pour thème « Désinformation et cohésion sociale à Ségou, comment prévenir la vérité dans un contexte de comment préserver la vérité dans un contexte de crise ». Objectif, promouvoir une prise de conscience collective sur les effets de la désinformation dans un contexte de crise et renforcer les capacités des citoyens de Ségou pour la promotion des pratiques d'information responsable. La rencontre est organisée par la plateforme Bembéré Benkan en partenariat avec la Confédération suisse.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la chronique Zoom sur Lala Diarra Touré, nous parle de l'attitude des accompagnateurs de malades dans les hôpitaux et centres de santé.
La solidarité est l'une des valeurs essentielles la mieux partagée sous nos cieux. La mobilisation pour les cas de maladie en est une preuve. Je vous raconte le cas de ma cousine Nafi qui a été hospitalisée. Voilà que toute la famille a élu domicile à l'hôpital pour la circonstance. Sa grand-mère, ses oncles et tantes, son père, ses frères, sans oublier sa mère, qui chaque 2 heures fait une crise d'angoisse. Sa grand-mère, qui est également son homonyme, tient à peine sur pied. Elle a alors dû étaler une natte devant la chambre d'hospitalisation. Elle suit les mouvements du personnel de santé. À tous ceux qui passent et qui portent une blouse blanche, elle dit « Enfin, ça fait quand même 1 heure qu'aucun médecin n'est venu voir mon homonyme. Comment va-t-on savoir si son état s'améliore ?» Nafi est également l'unique fille de ses parents. Ces derniers lui vouent un amour inconditionnel. Ils ont alors informé tous leurs amis de la situation. Ces derniers aussi, par groupe, viennent rendre visite à Nafi. Et à chaque visite, c'est à la limite une ambiance de marché qui s'installe dans la chambre, occasionnant une gêne pour les autres malades qui ont besoin de repos. Le surveillant général de l'hôpital a alors pris sa responsabilité en remerciant tout ce beau monde. Chers auditeurs, la présence de nombreux accompagnants peut engendrer du bruit, perturbant le repos des patients et le travail du personnel.
Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ne décrochez pas dans un instant le magazine. Quand l'incompétence pénalise la compétence, c'est le sujet développé dans notre magazine Gouvernance et citoyenneté du jour. Nous l'écoutons. Mayantao est un professionnel du secteur du bâtiment et des travaux publics BTP à Mopti. Selon lui, les nominations à des postes de responsabilité s'y font au Mali de façon hasardeuse.
Très généralement, au Mali, les nominations se font hasardement dans le socialisme comme ça. Il faut donner la place de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne faut jamais donner le travail à quelqu'un qui ne mérite pas parce qu'il y a des choses qu'on doit respecter.
Un manager incompétent est souvent incapable d'inspirer confiance et de motiver ses équipes. C'est l'avis des citoyens maliens interrogés à Bamako et à l'intérieur du pays.
J'ai vraiment été victime de cette situation. Non seulement la personne n'a pas le diplôme qu'il faut, la personne n'a pas la capacité intellectuelle pour pratiquer.
En fait, cette personne ne sera pas aussi productive que ça.
Les autres sont obligés de corriger son travail après lui.
Ce recrutement ne devra pas se faire par affinité, encore moins par connaissance.
Ça joue quand même sur nous qui sommes les jeunes diplômés, qui n'ont pas des parents qui peuvent vraiment nous aider.
La nomination d'incompétents à des postes de responsabilité est préjudiciable à l'entreprise, aussi bien sur le plan financier que sur le plan humain, affirme Yeya Maïga. Pour ce spécialiste en gouvernance et sécurité à Arga Mali, cela peut entraîner une perte de clients et de contrats.
D'abord, ça va jouer sur la productivité de l'entreprise. Ça va freiner le progrès au sein de l'entreprise. Et l'autre conséquence, ça rend une mauvaise image de l'entreprise, que ce soit privé ou public, et crée ce qu'on appelle un climat de méfiance ou entraîne même une perte de la clientèle quand il s'agit d'une entreprise à but lucratif, mais aussi une perte de confiance quand il s'agit d'une entreprise publique.
Le psychologue Drissa Traoré de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux partage plus ou moins cette affirmation. Pour lui, certains postes méritent des personnes avec une bonne moralité.
Il y a certains postes qui sont délicats et qu'on ne peut pas nommer des personnes qu'on ne connaît pas leur moralité ou bien qu'on n'a pas un lien fort avec ces personnes. Mais sauf que quand vous nommez, il faudra tenir compte de leurs compétences. Il peut y avoir des conséquences psychologiques. La personne va être très stressée avec des problèmes d'ordre émotionnel. Cela va au détriment même de l'entreprise. Mais quand vous nommez une personne ou un proche qui a les compétences, la personne va se sentir à l'aise.
L'expert en gouvernance à Arga Mali, Yeya Maïga, recommande de procéder à un appel à candidature chaque fois qu'il est question de nomination à des postes de responsabilité dans une entreprise. Cela afin de créer un environnement de travail moins toxique.
Beaucoup d'entreprises font cela. Ils font des appels publics à candidature. Ensuite, ils informent le public si la candidature est retenue pour les prochaines étapes et aussi présentent les nouveaux recrues. Et cette présentation va permettre non seulement au public de connaître les personnes sélectionné, donner, mais également aussi d'apprécier la compétence, la valeur ajoutée de ces personnes. À mon avis, c'est des processus qui permettent d'améliorer ces cadres-là.
Autrement, les employés compétents peuvent être frustrés, se sentir lésés par des décisions injustes et arbitraires prises par le manager incompétent. Ils peuvent aussi être tentés de se désengager ou de partir, indique l'expert en gouvernance.